poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioallianceplus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, d'abord des informations locales, avec entre autres l'annonce d'une exposition sur le thème du refuge. Puis ce sera une évocation du grand rassemblement organisé par Thésée à Paris fin 2025 début 2026. C'est ensuite une prise de position du Conseil œcuménique des Églises sur le Venezuela. Puis une tribune de l'historien Jean Bobéro-Vincent sur l'anniversaire de la loi de 1905. Et nous terminerons avec une réflexion théologique sur la guerre en Ukraine, placée sous le regard des icônes. Information locale. À Nîmes, la maison du protestantisme, située 3 rue Claude Brousson, à deux pas de la maison Carrée, vous accueille le matin, du mardi au vendredi, de 9h30 à midi, l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à midi. La maison propose à toutes et tous, sans inscription préalable, tous les jeudis, hors vacances scolaires, un repas moyennant une petite participation financière. Les deux prochains repas auront donc lieu les 15 et 22 janvier à 12h15. La bibliothèque de la Maison du Protestantisme est ouverte tous les vendredis de 14h à 16h. Et voici maintenant une information concernant une exposition intitulée « Refuge ». Vernissage le 15 janvier 2026 à 18h. Nous avons tendance à voir le refuge ou les migrations comme uniquement un mouvement des populations pauvres vers des pays riches. La question du refuge ou de l'accueil est plus vaste. Il y a parfois des déplacements de population au sein d'un même pays. Le refuge est encore plus vaste. Un enfant qui s'évade par le rêve en écoutant son professeur, les enfants au Japon qui s'abritent sous les tables lors d'un tremblement de terre, voilà bien d'autres notions du refuge. Le regard que nous portons sur l'idée du refuge et sur les mouvements migratoires permet de relativiser l'accueil de l'autre. On trouve trace de la notion de refuge dès l'origine de l'humanité. C'est l'espoir qu'il existe toujours, quelque part, un endroit dans lequel on pourra vivre. Dans la Bible, c'est l'arche de Noé. Pour le lapin, c'est le terrier. Pour les alpinistes, c'est le refuge de montagne qui les abrite de la tourmente ou les églises du refuge pour les huguenots. Mais le refuge, c'est plus qu'un lieu matériel. C'est le fondement de la vie. L'assurance que, quelles que soient les conditions et les difficultés, il y a toujours une issue. C'est un formidable message d'espoir qui nous permet d'entreprendre, de faire une pause et de repartir, quelle que soit l'horreur vécue et les difficultés traversées avant de trouver le refuge. C'est donc une exposition qui aura lieu à la Maison du Protestantisme et dont le vernissage aura lieu le 15 janvier prochain à 18h. C'est aussi à la Maison du Protestantisme que se retrouvent un certain nombre de groupes. C'est le cas par exemple du groupe Les Embruns qui se retrouvera le jeudi 15 à 15h à la Maison du Protestantisme sur le thème de la violence. L'atelier Théophilo aura lieu, lui, le lundi 19 janvier à 18h30 avec comme sujet Kant. Le groupe Évangile et Liberté se réunira le mardi 20 à 17h30 avec pour thème Les ciseaux génétiques, révolution thérapeutique ou boîte de Pandore. Association protestante d'assistance. Les bénévoles de l'épicerie sociale de l'Association protestante d'assistance APA vous accueilleront le jeudi 15 janvier à 15h au 1 bis place de l'Oratoire à Nîmes. Ne manquez pas l'occasion de découvrir un lieu solidaire et convivial au cœur de Nîmes, au cœur de représentants des pouvoirs publics, de financeurs et de partenaires associatifs. Venez ensuite partager un verre de l'amitié et une galette des rois pour prolonger ce moment. Si vous le pouvez, confirmez votre présence le plus tôt possible. Église verte. Le groupe de l'Église verte se retrouve à la salle paroissiale de l'église Saint-François de la Salle, 11 rue Thierry à Nîmes, le vendredi 16 janvier de 12h15 à 13h45. Thésée. L'Erasmus de la Fraternité, plus de 15 000 jeunes chrétiens réunis à Paris tout récemment, au début de l'année 2026. Réunis à Paris à l'occasion de rencontres, à l'occasion des rencontres européennes de la communauté de Thésée, plus de 15 000 jeunes chrétiens venus de toute l'Europe ont fait l'expérience d'un temps fort de rencontres, de dialogue et de fraternité. Accueillis notamment à l'Hôtel de Ville de Paris, ils ont donné corps à une Europe vécue, incarnée, fondée sur la relation et l'espérance. À cette occasion, Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, a rappelé avec force que l'Europe ne se construit pas uniquement par des traités, des institutions ou des programmes, mais aussi, et peut-être d'abord, par des expériences humaines fondatrices. Des expériences où la rencontre de l'autre devient un chemin de compréhension mutuelle, de réconciliation et de paix. À l'image du programme Erasmus, ces rencontres européennes offrent à la jeunesse un espace de mobilité, de découverte et d'apprentissage. Elles constituent un véritable Erasmus de la fraternité, permettant à des jeunes de cultures, de langues et de confessions différentes de se rencontrer, de se connaître et de tisser des liens durables au-delà des frontières nationales et confessionnelles. Par le chant, le silence, la prière, mais aussi par le partage des aspirations, des questionnements et des visions du monde, ces jeunes font l'expérience concrète d'une Europe fondée sur l'écoute, la confiance et l'amitié. Des liens se nouent, parfois improbables, qui donnent chair au projet européen et renforce le sentiment d'appartenance à une véritable communauté de destin. Dans un contexte européen marqué par les tensions, les fractures et les tentations de repli, Thésée rappelle avec sobriété et profondeur que la jeunesse européenne porte en elle une espérance vivante, celle d'une Europe de paix, de liberté et de fraternité construite par la rencontre et le dialogue. Christian Krieger et Pierre Blanzat, responsables des relations œcuméniques de la Fédération protestante de France, se sont pleinement engagés dans plusieurs temps forts œcuméniques de ces rencontres consacrées au dialogue entre Églises, à la jeunesse et à la responsabilité commune des chrétiens dans la construction de la paix en Europe. Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique des Églises condamne l'attaque des États-Unis au Venezuela et appelle au respect du droit international. Le pasteur Jerry Pillay, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, a fermement condamné les récentes attaques perpétrées par les États-Unis d'Amérique au Venezuela, notamment l'enlèvement et la détention du président Nicolas Maduro et de son épouse, qualifiant ces actions de violations particulièrement flagrantes du droit international. Dans sa déclaration, le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises estime que ces attaques créent un dangereux précédent en normalisant le recours à la force armée à des fins politiques. Ces actions constituent un précédent et un exemple dangereux pour toutes celles et tous ceux qui veulent faire fi des contraintes limitant le recours aux agressions armées et à la force brute à des fins politiques, affirme le pasteur Pillay. le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises appelle à l'arrêt immédiat des attaques et au respect des principes du droit international et de la souveraineté des États. Il demande également aux organisations internationales de prendre rapidement les mesures qui s'imposent. Le Conseil œcuménique des Églises appelle à l'arrêt immédiat de ces attaques, au respect des principes du droit international et de la souveraineté des États, et à la résolution des différends par le dialogue et la diplomatie plutôt que par la violence armée, poursuit le pasteur Pillay, qui exhorte les Nations Unies et l'Organisation des États américains à intervenir pour garantir le respect des chartes et conventions internationales. La déclaration met l'accent sur les conséquences mondiales de ces événements. En ces temps incertains, où règne le danger, le monde a besoin de responsables sages qui font preuve de courage pour la paix et non d'une multiplication des conflits et de la normalisation des actions internationales illégales, affirme le pasteur dans sa déclaration. Après 1905. Jean Bobéro-Vincent est historien, ancien président de l'École pratique des hautes études. Il propose dans le numéro 4119 de l'hebdomadaire Réforme du 8 janvier dernier une tribune sur l'anniversaire des 120 ans des célébrations tournées vers l'actualité. Voici sa tribune parue dans la rubrique Idées et débats. La célébration des 120 ans de la loi de 1905 est maintenant terminée. Fait notable, elle a eu un retentissement comparable à celle du centenaire, alors que 120 ans ne revêt pas logiquement la même valeur symbolique que 100 ans. Comme en 2005, le sommet de l'État ne s'est guère investi, un peu gêné peut-être des divergences d'opinion concernant la laïcité. Pour le centenaire, j'avais participé en 2002-2003 avec Régis Debray et quelques autres à des réunions à l'Élysée où de grands projets furent élaborés. Mais tout tomba à l'eau après la loi de 2004. En revanche, le terreau associatif, plus généralement la société civile, les collectivités territoriales et certaines préfectures ont multiplié les manifestations. Celles et ceux perçus comme des spécialistes de la laïcité se sont trouvés assaillis de demandes et, malgré les dédoublements permis par la visioconférence, n'ont pu répondre à toutes les sollicitations. Schématiquement, deux tendances majeures se sont dégagées. La première envisage la laïcité comme une spécificité, voire une exception, selon France 2. Une exception française et établit des continuités entre la loi de séparation et aujourd'hui. La notion de neutralité est mise en avant, devenant presque un synonyme du mot laïcité lui-même. La seconde, au contraire, effectue des comparaisons avec d'autres pays et, à partir de la loi de 1905, porte un regard critique sur la laïcité actuelle. Elle insiste sur la liberté de conscience et l'égalité des citoyens, quelle que soit leur religion ou leur conviction philosophique. Chacune a ses raisons, mais ce qui m'a frappé dans les témoignages recueillis et ma propre expérience, c'est, sauf heureuse exception, l'intérêt moindre qu'il y a 20 ans pour la loi elle-même, son contexte, sa fabrication, son application. Même après un exposé historique, les questions portaient en général seulement sur l'actualité. Ce n'était pas le cas en 2005. On me rétorquera que depuis, les attentats terroristes ont durement frappé. Certes, mais le centenaire s'est déroulé peu après la terrible attaque du 11 septembre 2001 à New York, et celle-ci n'avait pas aboli pour autant la curiosité intellectuelle. Il semble que dorénavant, les gens se trouvent englués dans un présent dont ils n'arrivent pas à se distancer. Pourtant, comme l'indique l'historien Jean-Noël Jeannenet, l'avenir vient de loin. Le présent apparaît sans issue si on ne l'envisage pas dans sa dimension historique. De plus, la réalité présente a été réduite à la dite actualité. Une insistance du conférencier sur le fait que la loi a permis de financer un service d'aumônerie sur fond public ne suscitait guère de discussion. Il en était de même des accommodements liés à 1905. La laïcité au quotidien, la laïcité non médiatisée, celle des trains qui arrivent à l'heure, est devenue invisible et ne se trouve plus mémorisée. Pourtant, Noël est la célébration d'une naissance dans une étable. Salutaire rappelle que Dieu ne se trouve pas dans le tonitruant. C'était donc une tribune de Jean Maubéraud Vincent, historien et ancien président de l'École pratique des hautes études, paru dans Réforme 4119 du 8 janvier 2026. Conférence des Églises européennes. Début décembre dernier, la Conférence des Églises européennes a organisé une conférence sur le thème « Résister à l'Empire, promouvoir la paix, les Églises face à l'idéologie du monde russe ». Cette conférence était organisée en partenariat avec les Églises membres de la Conférence des Églises européennes en Finlande. Alors que la centaine de participants venant de toute l'Europe s'apprête à débattre des fondements théologiques, parfois brandis par l'Église orthodoxe de Russie et son patriarche Kirill pour justifier la guerre d'agression que Moscou livre depuis près de 4 ans en Ukraine, une exposition était disposée pour les accueillir dans la salle plénière de l'hôtel Arthur d'Helsinki, qui abrite leurs échanges pendant 3 jours. 5 icônes contemporaines avaient été transportées sur place par l'ambassade d'Ukraine en Finlande, qui les accueille actuellement pour être présentées aux représentants d'églises et théologiens chargés de réfléchir à l'articulation entre le discours théologique des uns et la volonté hégémonique et impérialiste des autres, et aux résistances possibles face à ces discours. Des icônes dans des boîtes de munitions est un projet artistique mené depuis le printemps 2015 par 3 artistes ukrainiens, Sonia Atlantova, Oleksandr Klimenko et Herman Klimenko. Les 3 artistes ont récupéré sur le front ukrainien du bois provenant de coffres servant au transport de munitions pour en faire le support d'icônes de la Théotokos, peinte dans un style traditionnel ukrainien. Se retrouvent ainsi mêlés projets culturels et dimensions spirituelles, symboles de mort et représentations par excellence de la vie elle-même dans ces icônes de la Vierge à l'enfant, trésor de la culture orthodoxe. Initialement dédiées aux milliers d'enfants ukrainiens détenus par les autorités russes depuis le début du conflit dans le Donbass en 2013, ces icônes soulignent, pour les 3 artistes depuis l'invasion de février 2022, non seulement l'enlèvement des enfants, mais le kidnapping à grande échelle, non par quelques individus ou de petits groupes, mais par une nation tout entière. L'exposition, qui a déjà circulé dans plus de 130 villes à travers 25 pays, éclairera sans aucun doute les discussions à Helsinki, non seulement sur la réalité de la guerre qui sévit sur le territoire européen, mais aussi dans le signe d'espérance qu'elle manifeste. C'est un article de Gérald Machabert, pasteur de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 7h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.